Groupe Calade, 100.9.
L'info locale et régionale.
Présenté par Sylvie Rosier.
26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur les bords de la Seine à Paris. Du 26 juillet au 11 août 2024. Les Jeux Paralympiques, quant à eux, se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2024. Les sportifs et leur encadrement prennent possession de leur logement à partir du 18 juillet. Au plus fort des Jeux, ils seront 14 250 à vivre dans cette petite ville qui comprend un centre multiconfessionnel, une polyclinique, un restaurant, une nurserie ou encore un bureau de poste. Le village de 52 hectares à cheval sur les communes de Saint-Ouen, Saint-Denis et Lille-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, affichera alors complet. Les 14 250 lits des quelques 7000 chambres seront occupés par environ 9000 athlètes sur 10 500 participants aux JO et 5000 membres de l'encadrement, entraîneurs, kinés, etc., issus de plus de 206 délégations. À Lyon, les bénévoles des JO commencent à récupérer leurs tenues officielles. Cela devient très concret. Les Jeux Olympiques approchent et les 45 000 bénévoles de l'événement commencent à toucher du doigt leur mission. Depuis mardi 9 juillet, ils peuvent aller chercher leurs uniformes officiels dans des magasins Décathlon des 8 villes hôtes des JO en France. À Lyon, 2900 panoplies seront ainsi distribuées dans les 15 prochains jours. L'INSEE table sur une croissance française à 1,1% en 2024, notamment grâce aux JO, mais souligne l'incertitude politique. Un appel à la grève lancé dans les aéroports de Paris le 17 juillet, avant les Jeux Olympiques, pour les réjouissances, et Anne Hidalgo, qui se baignera dans la Seine le 17 juillet également, selon une organisation partenaire. Sous réserve que l'état sanitaire du fleuve le permette. Pas folle la guêpe. Allez, ouvrons grand les jeux.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.
Après 3 mandats de députée européenne, la socialiste Sylvie Guillaume met un terme définitif à sa mandature dans l'hémicycle du Parlement européen de Strasbourg et ne s'est donc pas représentée aux élections européennes du 9 juin dernier. Dans un message d'au revoir, Sylvie Guillaume annonce la fin de sa mandature cette mi-juillet. Elle n'est donc officiellement plus députée européenne. L'occasion d'un entretien avec celle-ci d'une expérience de 15 ans de mandature. Et tout d'abord, les raisons de son départ du Parlement.
Je quitte le Parlement après 15 ans. Je précise juste parce que je crois que c'est utile, j'espère. J'en profite aussi pour faire céder la place à des gens plus jeunes, à des gens qui vont me remplacer au Parlement européen. Et je suis plutôt contente de faire cette démarche en direction de mes collègues plus jeunes. Enfin, le Parlement, c'est vraiment une assemblée absolument extraordinaire. On peut faire un boulot assez libre et puissant. Et vraiment, j'encourage mes collègues dans cette voie.
Un regard sur la situation actuelle de l'Union européenne.
Le regard que je porte sur l'Union européenne en général, c'est un peu à la croisée des chemins, puisque on a vécu ces 5 dernières années plusieurs événements extrêmement forts depuis la fin d'un divorce avec un État membre qui maintenant doit se poser un peu des questions quand même sur sa sortie de l'Union européenne. Je parle évidemment du Royaume-Uni, avec un divorce qui s'est finalement pas trop mal passé et d'autres États qui ont renoncé maintenant à sortir de l'Union. On a enchaîné avec des crises, avec une pandémie mondiale qui a évidemment beaucoup affecté l'Union européenne et qui l'a obligée à prendre des décisions rapides qu'on n'attendait pas nécessairement, comme la sortie de la naïveté s'agissant des produits industriels qui sont fabriqués en Europe, le recours à d'autres parties du monde qui ont rendu très dépendante l'Union européenne. Donc tout cela a beaucoup fait bouger les lignes. On a réussi aussi au travers de cette crise pandémique cet exploit d'avoir des dettes communes, c'est-à-dire de pouvoir relancer la machine économique ensemble alors que personne n'imaginait possible d'avoir des dettes communes. Donc on a eu un plan de relance. Et puis surtout, je dirais, malheureusement, la guerre aux frontières de l'Union européenne avec la Russie et son attaque contre l'Ukraine, qui bien évidemment n'est pas, vous l'imaginez bien, seulement, même si c'est une guerre militaire, c'est aussi une guerre contre l'Union européenne, contre les valeurs de l'Union et contre l'état de droit dans l'Union. Donc c'est pour ça qu'il faut être absolument fort s'agissant du soutien à l'Ukraine. Donc c'est un moment charnière où on a su prendre des décisions ensemble, puissantes, auxquelles il faut donner une suite, et une suite elle aussi puissante.
Quelques mots sur l'organisation de la nouvelle législature 2024-2029 du 16 juillet.
Au Parlement, mes collègues vont être sur place en assemblée plénière constitutive le 16 juillet prochain. Donc ils seront tous à Strasbourg pour constituer, pour fixer le nombre de personnes dans les groupes, pour fixer les principales responsabilités. Il y en a une centaine, donc ils vont être, certains d'entre eux, élus. Et puis, ils vont commencer leur travail aussi de lien et de surveillance de ce qui se passe à la Commission européenne, puisque la deuxième institution va être renouvelée également. Selon toute vraisemblance, puisque les grandes tendances n'ont pas été considérablement modifiées, Madame von der Leyen obtiendra un deuxième mandat de présidente de la Commission européenne. Et donc, cela se fera lors de l'Assemblée plénière du Parlement. Ensuite viendra la composition de la Commission européenne qui va compléter le renouvellement du Parlement. Et donc, je pense que d'ici, après les auditions au Parlement européen, d'ici la moitié de la deuxième semestre, on aura des institutions complètes qui seront en ordre et donc avec la nécessité de voter sur les priorités qui seront présentées, les priorités pour les 5 ans qui viennent. Donc, fixons en gros à l'automne la remise en route complète des institutions avec ses priorités et j'espère un budget adéquat.
Autre constat, la montée de l'extrême droite dans les pays fondateurs de l'UE.
Malheureusement, ils étaient déjà très nombreux lors du précédent renouvellement. Donc, certes, ils ont encore plus d'élus. Peut-être qu'on les verra plus cette fois-ci et qu'ils seront plus efficaces selon leurs propres critères. Pas forcément les miens, vous comprenez bien, mais leurs critères. Mais pendant les 3 mandats où j'ai exercé au Parlement européen, on ne peut pas dire que c'est des parlementaires extrêmement actifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc évidemment, ils sont plus nombreux et surtout, ils ont réussi à former une sorte de nouveau groupe qui, sous l'égide du Premier ministre, hongrois, qui est pour l'instant président du Conseil également, qui en gros est composé de tendances d'extrême droite, qui forme le troisième groupe du Parlement européen et qui est, pour les caractériser un peu sommairement, plutôt pro-Russie, pour redire les choses clairement. Donc ce groupe est évidemment extrêmement dangereux pour ce qu'il porte de priorité vis-à-vis de notre ennemi, comme je l'exprimais tout à l'heure. C'est ça qui va changer beaucoup, c'est que ce groupe est maintenant le troisième dans l'Assemblée du Parlement européen. Le quatrième étant, je crois qu'on peut le dire sans trop se tromper, maintenant le groupe Renew, c'est-à-dire qui est composé des collègues du président Macron au Parlement européen, et ensuite suivi par encore un autre groupe d'extrême droite. Ce que je veux dire par là, avec tous ces détails, c'est que évidemment la puissance numérique de l'extrême droite, notamment des Français dans le Parlement européen, est un sujet de préoccupation. Ils sont en revanche divisés entre eux sur leurs objectifs, comme je le disais, l'un étant très pro-Ukraine et l'autre très pro-Russie, si on devait être très caricatural. Mais voilà, on a quand même le sentiment que sur d'autres sujets que celui-ci, ils peuvent être amenés à bloquer un certain nombre de priorités. Je pense notamment sur les questions d'environnement, où ils sont très très hostiles au pacte vert européen. Donc il faudra être très très attentif aux formes de coalition pour bloquer des priorités telles qu'ils pourraient être tentés de le faire.
Le regard des parlementaires européens sur les législatives anticipées de la France.
Alors, je ne vous cache pas que la campagne en France pour les législatives anticipées a été une source de profonde interrogation au plan européen. Moi, tous les collègues que j'ai croisés ou des interlocuteurs institutionnels que j'ai croisés étaient très très inquiets de ce qui était en train de se dérouler en France. Ils ont poussé la grosse majorité d'entre eux à un soupir de soulagement le soir du deuxième tour. Mais je crois que l'instabilité en France, le fait que on ne sache pas depuis savoir qui se pourra désigner le commissaire comment va se comporter le futur Premier ministre et les ministres qui composeront tel ou tel gouvernement dans les discussions du Conseil et là aussi pour défendre les priorités françaises, tout ceci effectivement est inquiétant pour l'influence française dans les institutions européennes et un facteur d'instabilité dans les discussions au sein du Conseil et à la Commission. C'est vrai que la France étant un pilier de l'Union européenne, tout ce qui est instable s'agissant de ce pilier a un retentissement sur le reste des politiques menées, bien évidemment.
La nouvelle composition de l'Assemblée nationale française peut-elle être un frein pour l'Union européenne ?
Il faut surtout ne pas calquer les compositions politiques européennes avec la composition politique française et l'inverse. Parce que on fonctionne un peu différemment au plan européen et depuis longtemps nous sommes habitués à former des coalitions. Ça surprend d'ailleurs de temps en temps un peu nos interlocuteurs français qui s'interrogent pour savoir si on perd vraiment notre âme en faisant une coalition. La réponse est non. Donc voilà, on peut pas faire un calque entre les deux politiques.
Les priorités des sujets à aborder pour l'UE.
Les sujets sont multiples. Je dirais qu'on a 4 ou 5 sujets très importants, c'est les questions de défense, bien sûr, puisqu'on est au cœur d'un conflit.
Une armée, ça serait possible ? Par exemple, on parlait d'une armée.
Je pense qu'on n'y est franchement pas, et certaine que ce soit le sens général de l'histoire. Qu'on soit plutôt dans un domaine de comment on construit une industrie de défense européenne et comment on a des réflexes communs en matière de défense, serait plus juste que d'imaginer une armée. Une armée, le problème, c'est de savoir qui la gouverne. Donc, ça posera quand même toujours un petit problème dans l'ordre régalien. Donc, c'est pas vraiment ça, à mon avis, qui est en jeu, mais plus comment on construit une vraie puissance de défense européenne, industrielle, au plan européen. Je crois que le deuxième sujet, c'est comment on transforme l'essai sur le pacte vert européen, donc en matière de lutte contre le changement climatique. Vous avez dû entendre que ces dernières années, qui n'est toujours pas en application, hein, je le rappelle, quand on lui met sur le dos un certain nombre de règles qui sont jugées néfastes, n'est toujours pas en action législative. Donc je pense qu'il faut lui donner une suite très très concrète en matière d'investissement dans la lutte contre le changement climatique. On citera par exemple la question du logement. Je pense qu'en matière économique et fiscale et industrielle, on est devant des enjeux importants. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, l'Europe est lancée dans un processus de réindustrialisation, d'autonomie industrielle dans plusieurs domaines. Et je crois que ça constitue un troisième sujet très très important. On pourra y ajouter, parce que vraiment on est là aussi à la croisée des chemins sur ce sujet, il faudra faire une réforme de la politique agricole commune de façon accélérée maintenant pour mieux correspondre aux enjeux d'autonomie alimentaire auxquels on pourrait être confronté.
Et enfin, une dernière question à l'ex-députée européenne. On va peut-être s'arrêter là, Sylvie Guillaume. Je vais me retourner plutôt de façon un petit peu personnelle en disant que vous avez dit dans votre communiqué un au revoir et pas un adieu.
Parce que je n'abandonnerai, je crois, jamais les questions européennes qui m'ont passionnée pendant tant d'années et auxquelles j'ai consacré beaucoup de mon temps. Donc je reste évidemment très, très attentive aux questions européennes, à la politique européenne. Mais en tout cas, je suis certaine au moins que je ne concourrai plus à un mandat d'élu. Donc je vais revenir à une fonction un peu différente maintenant, mais avec toujours cette passion pour l'Europe.
La communauté de communes d'Ombes-Saône-Vallée lance Sonibike, son service de location de vélos longue durée. Une initiative écologique et pratique en mettant à disposition 12 vélos à assistance électrique et 3 vélos pliants électriques pour les habitants sont disponibles en différentes tailles. Pour seulement 50 euros par mois avec prélèvement automatique, la période de location est de 6 mois fixe. Les inscriptions se font via la plateforme Loki dès mi-juillet jusqu'à épuisement du stock avec remise des vélos prévue le 4 septembre à la CCDISV. Prochain rendez-vous pour les lectures vagabondes, 11 juillet à 18h30. Pour l'occasion, à la Maison Vermorel qui ouvre ses portes. Une lecture où il sera question d'une moustache, de sandwich au poulet et d'une piscine municipale. Courez-y vite, un rendez-vous gratuit.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.